trou noir en eau profonde. Un roman de Éric Simon. Chapitre 3. Retour de données. 2 mai 2017. Ça y est, on a tout maintenant. Enfin, tout sauf le SPT. Hein. On va enfin pouvoir travailler. Tu as eu Jens ? Demanda Paul. Oui, tout à l'heure. Ils viennent de recevoir leur dernière livraison. Ils vont lancer les vérifications demain, je crois, répondit James de sa voix puissante. Parfait. Eh ben, au boulot. J'ai eu la confirmation de Gary hein, pour le transport du SPT. On est toujours sur le 15 décembre. Il nous apporte les 3 disques test vendredi. Super. Le début du mois de mai à Boston était lumineux. L'hiver avait définitivement tiré sa révérence pour laisser la place à une atmosphère douce, pleine des senteurs des arbres en fleurs. C'était tout le contraire en Antarctique, où la fin de l'automne austral s'approchait, pour ne pas dire que la nuit complète commençait à s'installer. Alors que les données dédoublées des 7 autres observatoires venaient d'être rapatriées par des transports spéciaux par avion, à la fois à Haystack et en Allemagne, celle du SPT allait passer tout l'hiver austral au frais dans l'observatoire du South Pole Telescope avant de pouvoir être à leur tour rapatriée. L'image de Sagittarius à étoiles se trouvait dans ces racks de disques durs que Léa avait laissés là-bas. Seuls les personnels pouvaient profiter des derniers trajets particuliers avant l'hiver austral reliant la base de Amundsen Scott à la base de McMurdo sur la côte antarctique. Léa et le technicien Bob Kisco avaient soigneusement tout éteint après avoir vérifié une dernière fois l'étanchéité du local de stockage. Puis ils avaient fermé la grande porte du bâtiment derrière eux et avaient parcouru à motoneige les 200 mètres qui les séparaient du local principal de la base. Les campagnes d'observation au pôle sud géographique avaient toujours lieu au printemps et à l'été austral, entre début novembre et fin mars, très rarement à l'automne. Cette semaine d'avril faisait exception en allongeant de 2 semaines la campagne normale. La nuit, déjà quasi omniprésente, produisait des températures très inférieures à moins 50 degrés. On ne restait que quelques minutes à l'extérieur. Léa et Bob étaient heureux de rentrer après 2 mois passés dans cet enfer blanc. Ils vivaient dans la base principale et passaient environ 10 heures par jour dans les bureaux qui jouxtaient la grande antenne de 10 mètres de diamètre. Ils avaient avant tout conduit le programme de recherche auquel était consacré le SPT, la mesure du rayonnement micro-ondes du fond diffus cosmologique, le sujet de la thèse de Léa, qui cherchait à déceler la polarisation de cette première lumière de l'univers. Ils n'avaient participé à l'Event Horizon Telescope que les 2 dernières semaines, avec une phase de test et la semaine d'observation proprement dite, qui avait été très découpé avec son lot de problèmes techniques, à commencer par des coupures de réseau téléphonique. Mais ils avaient réussi la tâche qui leur avait été assignée. Les acquisitions avaient marché au moment voulu et 10 racks entiers de gros disques durs avaient été remplis de données. Leur participation à l'EHT prenait fin. Ni Léa ni Bob ne devaient revenir à Amundsen Scott l'année suivante pour une éventuelle nouvelle campagne d'observation. Leur nom serait dans tous les cas dans la liste des co-auteurs de l'article scientifique qui serait écrit quand toutes les données des différents observatoires auraient pu être corrélées, vérifiées, analysées, revérifiées, puis soumises au pair pour validation. Gary avait demandé à Léa de rapporter avec elle plusieurs disques durs de manière à pouvoir faire quelques premières vérifications sur les données, même si ce n'était qu'un tout petit échantillon par rapport aux pétaoctets qui dormaient dans le froid. Gary avait apporté lui-même à Paul et James les 3 disques durs du SPT, rapportés par Léa à Chicago. Non pas qu'il ne faisait pas confiance au service de transport utilisé par l'Université de Chicago, mais il avait profité d'une conférence qui avait lieu à Cape Cod, à laquelle il devait assister. Passer par Cambridge ne faisait pas un gros détour. Ah, ils reviennent de loin, ces disques durs, hein, tu sais, dans tous les sens du terme, dit Gary en tendant vers Paul les 3 gros boîtiers. Vous avez eu des soucis ? Demanda Paul. Tu connais Léa ? Elle est débrouillarde, hein, cette petite. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de Bob, notre technicien qui l'accompagnait. Bref. Heureusement que c'est elle qui avait pris les disques. Vas-y, raconte, qu'est-ce qui s'est passé ? Un truc très bizarre, en Nouvelle-Zélande. Dès qu'ils sont arrivés à Christchurch par le vol spécial de McMurdo, Léa m'a raconté qu'ils avaient l'impression d'être suivis en permanence, depuis leur sortie de l'avion militaire. « Comment ça ?» demanda Paul en écarquillant les yeux. Elle stressait un peu pour les disques, hein, tu imagines. Elle ne voulait pas les perdre ou les abîmer. Avoir Sagittarius à étoile dans son sac à dos, c'est quand même pas banal, hein, tu m'avoueras, souriait Gary. Ils avaient coutume de dire que l'image de Sagittarius à étoile se trouvait dans les disques durs du SPT. Bien sûr, elle se trouvait aussi dans tous les autres disques durs des autres radiotélescopes. Mais le SPT était incontournable pour obtenir une image pertinente de Sagittarius à étoile, suffisamment résolue et contrastée. Au contraire, l'autre trou noir, M87 étoile, lui, ne se trouvait pas du tout dans les données du SPT, de par sa position dans le ciel qui était inaccessible au SPT. Et de toute façon, l'observatoire antarctique n'aurait pas apporté beaucoup plus s'il avait pu observer M87 étoile. Gary poursuivait le récit de ce que Léa lui avait raconté. Quand ils sont arrivés à l'aéroport de Christchurch, en transit pour attraper le vol intérieur pour Auckland, Léa et Bob ont vraiment eu l'impression d'être suivis par un grand type qui était avec eux dans l'avion de McMurdo. Il restait visiblement toujours à proximité d'eux, où qu'ils aillent dans l'aéroport. Marchands de journaux, bars, brasseries, un truc très bizarre. Et à un moment, Léa doit s'absenter pour aller aux toilettes et confie à Bob son sac à dos où il y avait les disques. Et au moment où elle revient dans la zone d'attente où s'était installé Bob, elle voit le type louche en train de partir à grandes enjambées avec son sac à dos. Quoi ? Alors elle hurle en se précipitant. « oh voleur, il a pris mon sac !» Et ce crétin de Bob jouait avec son téléphone et n'avait rien vu. Et alors là, le type se retourne, voit Léa qui court vers lui et d'autres personnes qui commencent à comprendre ce qui se passe. Alors le gars pose le sac par terre doucement, sans le jeter, et pique un sprint très vite jusque vers la sortie de l'aéroport qui était accessible non loin de là. Volatilisé ! Personne n'a pu le rattraper. « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» rétorqua Paul, dubitatif. « Tu me fais marcher, c'est ça ?»« Non, je t'assure, moi aussi au début j'ai cru que Léa et Bob m'avaient fait une blague, mais j'ai assez vite compris qu'ils ne jouaient pas un rôle pour mettre l'ambiance à leur retour. Ils étaient vraiment choqués, et je peux te dire que Bob n'en menait pas large. » Donc ça veut dire que quelqu'un qui était en Antarctique au même moment qu'eux a essayé de nous voler les échantillons de données du SPT, c'est gravissime ça, non ? Ah, je suis d'accord, je voulais te prévenir en personne. Léa et Bob sont rentrés à Chicago avant-hier. Ils ont eu le temps de faire un signalement auprès de la police néo-zélandaise de l'aéroport de Christchurch. Mais comme il n'y a eu que tentative de vol et non pas vol caractérisé, ça risque de ne pas aller très loin. Il ne doit quand même pas y avoir beaucoup de monde qui se rend à la base de McMurdo et sur le continent antarctique. C'est pas vraiment un lieu touristique, ça. Le type doit être lié soit au milieu scientifique, soit au militaire. Détrompe-toi, et il y a de plus en plus de touristes hein, qui débarquent là-bas. Mais bon, c'est vrai, ils ne passent pas par la base militaire américaine. De ce que je sais, c'est assez peuplé quand même. Hein. Je crois qu'il y a environ 1000 personnes en été, un peu moins en hiver, bien sûr. Tu sais, c'est là qu'on lance les ballons sondes. Eh ouais, je me souviens de Boomerang, une belle manip. Hein. Ah, c'était il y a 20 ans, ouais, déjà, répondit Gary, l'air pensif. Bon, c'est quand même inquiétant cette histoire. Hein. Est-ce que les racks de disques sont bien en sécurité au SPT ? Interrogea Paul. Tu crains que quelqu'un cherche à te dérober les données ? Tu penses que le type savait ce qu'il y avait dans le sac de Léa et que ça pourrait donc être volontaire ? Bah, on sait jamais. Il y a un détail qui m'intrigue dans ce que tu m'as raconté. Tu as dit que quand Léa avait couru vers le mec, il avait déposé le sac lentement sans le jeter brusquement. Tu trouves pas ça curieux ? Comme s'il ne voulait pas détériorer les disques ? Je sais pas, tu sais, ça s'est passé certainement très vite, hein. C'est difficile de déduire l'intention sur ce petit détail. En tout cas, pour ce qui est du stockage des racks, il y en a 10, hein, je te rappelle. Ils sont dans un local qui est fermé et ils ont mis le Mazer au même endroit d'ailleurs. C'est une fermeture mécanique à code. Et il n'y a que Léa, Bob et moi qui connaissons le code. Ça te rassure ? D'après ce que tu me dis sur ton technicien, je ne suis pas trop rassuré. Hein. T'as intérêt à ne pas trop le saquer et à le garder dans ton labo, hein, même s'il n'est pas très performant. Au moins jusqu'à ce qu'on ait pu rapatrier tous les disques. Mais j'avais pas l'intention de le virer. Hein. Il est surtout très tête en l'air. Mais il fait du bon boulot hein, quand il se concentre sur sa tâche. Bon, et pour accéder au rack sans avoir le code, comment ça serait possible ? Demanda Paul. Il faudrait détruire le mur du bâtiment. C'est un mur en béton très épais, tu sais, pour l'isolation thermique. En gros, il faudrait le faire exploser, mais ça détruirait probablement une bonne partie des disques qui sont à l'intérieur. Franchement, si je voulais voler ça, j'éviterais cette solution. Allez, t'en fais pas. C'était peut-être juste un pickpocket ou un kleptomane. N'aie pas peur pour tes données. On y sera de retour le 28 novembre. C'est seulement dans 7 mois. Je suis sûr que tes racks seront bien là avec ton Mazer. Ouais, merci Gary. Ces données sont tellement importantes, tu sais. Bon, je vais appeler Léa pour la remercier d'avoir veillé sur ces 3 disques comme elle l'a fait. Les 7 autres observatoires avaient envoyé leurs racks de disques durs par transport spécial après avoir copié les données en double. La première version, l'original, avait été envoyée à Haystack et la copie au Max Planck Institute à Bonn. La quantité gigantesque de données, plusieurs millions de gigaoctets par observatoire, était telle que le temps qu'il aurait fallu pour les transférer par les réseaux informatiques était bien supérieur aux quelques jours proposés par FedEx ou UBS pour les acheminer en avion et par la route. Les Allemands avaient juste reçu leur dernière livraison un peu plus d'un jour après Haystack. C'était celle en provenance du Chili, les données précieuses de ALMA et de APEX. Toutes les données, sauf celles du SPT, étaient maintenant disponibles pour être traitées par les dizaines de physiciens et astrophysiciens, informaticiens et ingénieurs d'une vingtaine de pays qui étaient impliqués dans les différents groupes qui avaient rejoint la collaboration de l'Event Horizon Telescope. La première chose à faire, en ce début du mois de mai, était une batterie de vérification sur les données afin de déterminer si elles étaient correctement enregistrées, que ce soit pour les données originales et pour les données copiées. Cette phase allait prendre au moins plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Parallèlement, un petit groupe de 3 personnes devait se charger d'évaluer la cohérence de l'échantillon rapporté par Léa du SPT pour savoir si tout était OK et si on pouvait espérer pouvoir reconstruire une image de Sagittarius à étoiles en un temps record dès que la totalité des racks serait rapatriée à la fin de l'année. Cathy Irving s'occuperait de la partie SPT avec un chercheur chinois en post-doc, Cheng Li, originaire de Shenzhen, mais qui venait tout juste d'arriver de Stanford où il avait fait sa thèse, et un doctorant canadien de Toronto qui s'appelait Kyle Leonard, qui avait été recruté spécifiquement pour travailler sur les algorithmes de reconstruction et de traitement des données. Les 3 disques durs ne représentaient pour eux qu'une infime quantité de bits à traiter et ils étaient presque frustrés de n'avoir que ça à se mettre sous la dent jusqu'au mois de décembre. Les 2 comparses, qui s'étaient apprivoisés très vite, s'étaient mis complètement à la disposition de Cathy pour commencer les tests sur les données des disques du SPT. Elle avait fait un partage équitable, chacun aurait droit à son propre disque dur. Ces quelques centaines de téraoctets ne représentaient en tout que 2 minutes 35 d'enregistrement de la longue journée du 9 avril, durant laquelle le radiotélescope était pointé vers Sagittarius à étoiles en même temps que les nombreux autres sur les autres continents. Pour commencer, il fallait récupérer les données enregistrées avec exactement les mêmes datations en provenance du LMT, le radiotélescope mexicain, qui leur servirait de données contrôle. Les chercheurs pourraient ainsi effectuer une mini-interférométrie sur les 2 minutes 35 rapportées du pôle sud entre le SPT et le LMT. S'ils y parvenaient, cela indiquerait que les données du SPT étaient saines. Celles du LMT seraient testées par ailleurs avec des données d'un autre radiotélescope, par exemple le JCMT de Hawaï, et ainsi de suite 2 par 2. L'ensemble des disques durs qui avaient été rapatriés la semaine précédente avaient tous été reconfigurés pour ne former qu'un immense espace de stockage sur lequel venait s'alimenter le serveur de calcul du laboratoire. C'était plus qu'un serveur de calcul, c'était un véritable supercalculateur, avec une puissance de 2 pétaflops et plus de 10 000 cœurs. Cheng et Kyle s'étaient mis au travail immédiatement après avoir compris les algorithmes développés avant leur arrivée. À peine une semaine après avoir plongé dans les signaux réels d'ondes radio et d'horloges atomiques, Cheng alla voir Cathy dans son bureau un matin. « Ça va pas ?»« Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Cathy en levant les yeux de son écran et en se tournant lentement vers le jeune chercheur chinois qui parlait un anglais tout à fait compréhensible, sans être totalement parfait. « Il y a quelque chose qui ne marche pas avec mes données. Elles ne sont pas cohérentes avec le LMT. Ça ne va pas. » « Tu as scanné quelle proportion de ta partie ?»«
Tout. »«
Tout ? Déjà ?»«
Oui, je viens de finir hier soir. Je n'y arrive pas. J'ai essayé plusieurs traitements, mais rien ne marche. Je ne peux pas dire si c'est le SPT ou le LMT qui bug. Il faut tester avec un autre jeu de données. »«
Tu en as parlé à Kyle ?»«
Oui, mais pour l'instant, il ne peut pas encore dire s'il corrèle les siennes, » répondit Cheng.
« En tout cas, pour moi... » « Sur la moitié que j'ai pu analyser, je n'ai pas trouvé de distorsion entre les deux jeux de données, » répliqua Cathy.
« C'est curieux.
Est-ce que je peux tester avec un autre jeu, le JCMT par exemple ?» demanda le jeune homme aux petites lunettes carrées.
« Bien sûr, si tu es sûr de toi. »«
Merci, on va vite savoir lequel est en cause. » Cheng referma doucement la porte du bureau et se dirigea d'un pas souple vers le bureau qu'il partageait avec le jeune Kyle, de 4 ans son cadet.
« Alors ?» demanda Kyle.
« Je vais regarder avec le JCMT, » sourit Cheng. C'était l'heure de la pause de midi. Les deux hommes verrouillèrent leur session quasi simultanément, puis sortirent du bureau assombri par l'orage qui venait d'éclater. « C'est à quel moment que tu vois des incohérences ?» demanda Kyle en portant sa fourchette doucement vers son visage. « En fait, c'est bizarre, c'est par morceaux plus ou moins longs. Ça commence dès le début de la période. » dit Cheng en haussant le ton. Sur les 50 secondes du disque, les 10 premières semblent bonnes, puis on a environ 7 secondes incohérentes, à nouveau une dizaine de secondes bonnes, puis 9 secondes incohérentes, puis une plage OK, et une plage foireuse vers la fin. Un brouhaha avait envahi la cafétéria où les deux jeunes chercheurs venaient tous les midis. Ils n'avaient pas encore suffisamment appris à se connaître pour parler de leur vie privée. Ils parlaient du travail. Leur pause méridienne était de toute façon très courte, pas plus de 30 minutes, puis ils remontaient au bureau. Les deux comparses étaient très différents. Alors que Cheng était assez grand et presque maigre, portant cheveux courts et des petites lunettes en métal, Kyle était plutôt grassouillé et ne s'était pas coupé les cheveux depuis plusieurs mois. Cheng faisait quelques efforts vestimentaires pour apparaître à la hauteur de ses pairs, tandis que Kyle ne voyait pas où était le problème de venir à l'institut avec un t-shirt à l'effigie de Sonic Youth ou Dinosaur Junior. Kyle n'aurait jamais pensé un jour travailler sur un projet de radioastronomie de cette ampleur. Il avait suivi un cursus relativement classique à l'université McGill et avait fini son master en sciences en se spécialisant en informatique appliquée au big data des grandes expériences astronomiques. Son sujet de stage, dont le résultat avait été remarqué par Cathy, concernait le traitement d'une partie des futures données du grand télescope VRST, le Vera Rubin Sky Survey Telescope, qui serait mis en service dans les années 2020. Le VRST avait récemment pris le nom de la célèbre astronome qui avait mis en évidence 50 ans plus tôt la présence probable de matière invisible dans les galaxies. Il aurait la particularité de générer chaque nuit des téraoctets de données en tout genre sur une quantité gigantesque d'objets, presque tout ce qui brillait dans le ciel jusqu'à des magnitudes très élevées. Le HT était pour Kyle l'occasion de développer ses algorithmes en les appliquant sur de véritables données qui fourniraient à la fin un résultat très concret, et non pas sur des simulations de bases de données qui n'étaient pour l'instant que des prévisions de données réelles. Cheng, lui, avait déjà travaillé indirectement pour le consortium durant sa thèse à l'université de Stanford. Il avait développé tout un arsenal de méthodes de reconstruction de signaux interférométriques
appliquée spécifiquement pour un réseau à très longue base dans lequel les différents points d'observation étaient suffisamment distants pour devoir prendre en compte la rotation de la Terre durant la période d'observation. Exactement ce que faisait l'Event Horizon Telescope, mais aussi son concurrent direct, le télescope virtuel GMVA, le Global Millimeter VLBI Array. Comme beaucoup d'étudiants en physique chinois, il avait choisi les États-Unis pour poursuivre ses études de troisième cycle après son master, qu'il avait obtenu avec les meilleures mentions possibles et imaginables à l'université de Shenzhen. Ses parents avaient économisé pendant 5 ans dans cet objectif. L'université de Stanford était classée au 7e rang des universités américaines, ce qui lui permettait de demander 50 000 dollars par an à ses étudiants jusqu'au master. Un peu moins pour les doctorants, qui percevaient heureusement un salaire. Et comme de nombreux docteurs fraîchement gradés, Cheng n'était pas rentré en Chine, mais était resté pour poursuivre un chemin très instable dans le monde de la recherche scientifique américaine. Moi, pour le moment, j'ai regardé seulement jusqu'à la moitié de ma période, ça fait seulement 25 secondes d'acquisition, c'est pas grand-chose, dit Kyle. D'ailleurs, chronologiquement, mon disque est antérieur au tien, donc je vais peut-être commencer à voir des choses anormales. Tu me préviens dès que tu vois quelque chose, hein ?
Oui, bien sûr, répondit le jeune Canadien.
Cathy avait récupéré les protocoles de test de Cheng pour aller plus vite, mais l'avait modifié pour essayer d'être le plus indépendante possible. Le scan complet de sa partie, le troisième disque, qui venait juste après celui de Cheng dans la chronologie, dura un peu plus de 14 heures. Le verdict était sans appel. En essayant de corréler avec le LMT, il y avait une série de zones incohérentes sur toute la durée de l'acquisition, par petites périodes d'à peine quelques dizaines de secondes. Les mêmes structures que celles qu'avait vues Cheng. « J'ai la même chose que toi, putain! Ça te donne quoi avec le JCMT ?» demanda Cathy au jeune Chinois. « Les mêmes défauts au même moment. » J'ai pas tout scanné, mais pour l'instant, c'est exactement aux mêmes zones temporelles. Ça veut dire que c'est le SPT qui foire. La probabilité que le LMT et le JCMT aient des défauts exactement au même coup d'horloge est quasi nulle. Merde. Et toi, Kyle, ça donne quoi avec ton protocole ?
Je viens d'arriver à la fin du disque et j'ai juste un défaut dans la dernière seconde d'acquisition. Sinon, tout le début est OK.
Et t'avais un défaut en début, toi, Cheng ?
Attends, oui... Oui, ça commence par un défaut qui dure environ 5 secondes. Ça peut être la suite de ce que commence à voir Kyle à la fin du sien.
On est mal, les gars. Il va falloir qu'on arrive à caractériser ce truc maintenant.
Vous avez une idée de ce que ça pourrait être ? Demanda Cathy à la volée.
Ça peut être plein de choses. Des parasites électromagnétiques ? Essaya Kyle.
Ouais, mais qui viendrait d'où ? Il n'y a aucune source parasite au SPT.
On est d'accord que c'est pas de l'atténuation, mais bien de l'émission. Demanda Cathy.
Oui, si ça corrèle pas, ça veut dire que le signal radio est pollué par quelque chose d'autre. Il n'est pas simplement moins intense ou plus intense. Il est différent, répondit Cheng.
Bon, avant de creuser la nature de ce parasite, on va quand même faire les tests de corrélation sur tous les autres antennes. La moindre différence pourrait nous apporter une information.
Cathy ne perdait pas complètement son sang-froid alors qu'elle savait que c'était peut-être l'image de Sagittarius à étoiles qui venait de disparaître avec ses gros défauts dans les données. La jeune femme, qui aimait porter des vêtements verts, de la même couleur que ses yeux, était arrivée dans le groupe de Paul 4 ans auparavant, en 2013. Après sa thèse à l'université de Seattle, qu'elle avait consacrée à l'étude des pulsars auprès du Very Large Array, elle fut acceptée pour un postdoc au MIT dans la collaboration EHT, puis fut embauchée sur un poste permanent 2 ans plus tard. Elle avait tout de suite montré une autorité et une rigueur qui avaient impressionné les pontes de l'Institute.
Je vous laisse faire les tests de corrélation. Utilisez vos 2 protocoles pour plus de robustesse. Moi, je vais voir avec Léa Goldstein, qui a fait les acquisitions, pour savoir ce qui aurait pu se passer le 9 avril à 4h22.
Paul était dans son bureau au rez-de-chaussée. Quand il vit Cathy devant sa porte, qu'il laissait toujours ouverte, il comprit que quelque chose n'allait pas.
« Qu'est-ce qui se passe ? » ?»«
On a probablement un problème avec les datas du SPT. Les 3 disques que Léa Goldstein a rapportés sont vérolés. Ils ne corrèlent ni avec le LMT ni avec le JCMT, aux mêmes datations exactement. On regarde avec les autres, mais faut pas se faire trop d'illusions. Merde ! Ouais, c'est un truc bizarre, on corrèle par moment, puis il y a des zones de quelques secondes qui sont foireuses, puis on arrive à nouveau à corréler, mais c'est toujours très court. C'était quand ces blocs de données ? Demanda Paul. C'est la première nuit sur Sagittarius A étoile à 4h22. Des parasites ? Ça y ressemble, mais on va essayer de caractériser ce truc de toute façon. Il manquait plus que ça, gémit Paul. Je te tiens au courant dès que j'ai du nouveau. Je vais voir avec Léa Goldstein pour voir s'il a pu se passer quelque chose à ce moment-là. Merci, Cathy. Bon, n'oublie pas que ces trois disques ne représentent que moins de 3 minutes d'acquisition sur les 9h et quelques qu'on a prises sur Sagittarius à étoile. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura rien d'exploitable sur les autres. Paul restait optimiste malgré tout. Et au pire, s'il ne parvenait pas à avoir l'image de Sagittarius à étoile, il aurait celle de M87 étoile.